Radio Prague, les informations.
Bienvenue à l'écoute, Alexis Rosenzweig pour le bulletin. Donc voici les titres. Le gouvernement a adopté le projet des missions étrangères de l'armée tchèque. Le ministère de l'Intérieur a décidé de supprimer 7 bureaux de la police des étrangers. Et puis protestation des lycéens contre la réforme du baccalauréat. Le gouvernement tchèque a donc adopté le projet d'émission de l'armée tchèque à l'étranger jusqu'en 2013, un projet présenté par le ministre de la Défense Alexander Vondra. L'année prochaine, il aura en Afghanistan 720 soldats tchèques et en 2012, le contingent tchèque en comptera 640 membres. Les soldats participeront surtout aux opérations de l'unité de reconstruction dans la province de Logar. Et selon le premier ministre tchèque Petr Nečas, les militaires tchèques seront progressivement retirés dans le même temps de leur mission au Kosovo. En 2012, les pilotes d'avions militaires devraient reprendre leur mission de surveillance de l'espace aérien des Pays-Baltes. Le ministère de l'Intérieur envisage de supprimer avant la fin de cette année 7 bureaux régionaux de la police des étrangers en République tchèque. Les compétences de ces bureaux passeront à d'autres organes de la police. Le ministère épargnera ainsi annuellement 219 millions de couronnes, soit 9 millions d'euros. Une déclaration de l'attaché de presse du ministère de l'Intérieur, Jiří Reichel. Cette réforme préparée par le ministre de l'Intérieur, Radek Jón, a déjà suscité des critiques. 200 à 300 d'étudiants se sont réunis ce mardi place Venceslas à Prague pour protester contre la réforme des baccalauréats préparée par le ministère de l'Éducation nationale. Une mobilisation moins importante que prévue. Leur action est appuyée par le sénateur Marcel Hladek du Parti social-démocrate tchèque. Dès la semaine prochaine devrait commencer ce qu'on appelle la répétition générale du baccalauréat d'État qui doit démontrer si tout est bien préparé afin que le baccalauréat réel ait lieu au printemps prochain. Selon le sénateur Marcel Hladek, le projet de nouveau baccalauréat national est risqué et coûte trop cher. Le ministre de l'Éducation Joseph Dobesch a finalement reçu 3 délégués des manifestants. Un mot de volley pour vous dire qu'au championnat du monde de volleyball, l'équipe masculine tchèque s'est inclinée en 3-7 contre l'Allemagne ce mardi à Rome en Italie. Et on y revient dans un instant dans les faits et événements. Et puis un mot pour vous dire également que le festival du design et de la mode Design Block a commencé ce mardi à Prague. C'est la 12e édition de ce festival qui se déroule dans 3 quartiers pragois, Holešovice, Karlin et La Vieille Ville. Ces quartiers sont situés au bord de la Vltava et l'eau est aussi le dénominateur commun des manifestations du Design Block cette année. La météo avec ce mercredi un temps couvert et des températures maximales qui ne dépasseront pas les 15 degrés. C'est tout pour le bulletin d'information et dans un instant c'est Magdalena Hrozinková pour la suite du programme en français de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce programme d'actualité de Radio Prague. À la une, aujourd'hui, une conférence internationale intitulée « Les journées de l'industrie » est organisée par l'OTAN. Elle se tient cette semaine à Prague. Vous entendrez ensuite le botaniste français Patrick Blanc, l'inventeur du concept des murs végétaux, mardi. Il a donné une conférence à l'Institut français de Prague. Enfin, le sport, la République tchèque ne participera pas aux demi-finales du championnat du monde de volley-ball en Italie. Comme annoncé dans les titres, cette semaine se tient à Prague une conférence internationale intitulée « Les journées de l'industrie » et organisée par l'OTAN. Parmi les participants, le général français Stéphane Abrial qui dirige le commandement allié des transformations de l'Alliance. Il est au micro d'Alexis Rosenzweig.
Cette semaine à Prague, nous tenons ce que nous appelons les journées de l'industrie organisées par le commandement allié des transformations. L'objectif est de resserrer les liens avec l'industrie. Nous l'avons déjà fait depuis un an. Nous avons lancé cette initiative à Washington lors de la conférence précédente l'an dernier. L'objectif est de partager avec l'industrie, de notre côté, notre vision de l'avenir, des évolutions stratégiques et des modes d'opératoire. Et de l'autre côté, que l'industrie partage avec nous sa vision des technologies à venir, du temps d'ici auquel elle pourrait être disponible et d'une estimation des coûts. Et cet échange très loin en amont nous permet d'être plus efficaces et j'espère d'accélérer les cycles de livraison d'armement et aussi d'en réduire les coûts. Et par ailleurs, la grande innovation cette année, c'est que nous sommes ensemble, l'OTAN et l'Union européenne, à travers la présence de l'Agence de défense européenne.
Alors justement, vous avez dit que c'était un de vos objectifs d'améliorer les relations entre l'OTAN et l'Union européenne. Comment s'y prendre concrètement ?
eh bien, d'une fête de mon mandat, je m'y prends très concrètement, avec des solutions pragmatiques. Vous savez qu'il y a un différent politique entre les deux institutions, il ne me revient pas de le régler, mais à l'intérieur des contraintes qui nous sont imposées, j'essaye de développer un maximum de projets communs, de voir des sujets sur lesquels les deux institutions ont déjà commencé à travailler ensemble, et que nous coordonnions mieux, que nous coopérions mieux sur ces sujets, de manière à prouver le bénéfice qu'il y a à nos deux institutions à partager, à travailler ensemble. Concrètement, par exemple, un domaine comme le soutien médical en opération, comme les opérations en réseau, comme la lutte contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires. Nous faisons des cours en commun. Nous progressons pour montrer aux nations que travailler ensemble n'est pas un mal, bien au contraire. Et j'espère que ces exemples donneront des idées à d'autres et donneront plus de motivation pour résoudre les difficultés politiques existantes.
C'est déjà la 7e conférence de ce type. Est-ce qu'on peut parler des résultats des 6 précédentes ? Qu'est-ce qu'on attend après ce type de conférence ?
Les résultats de ce type de conférence, c'est de rapprocher l'industrie et mon commandement. C'est de faire en sorte que les gens se connaissent et que les gens prennent l'habitude de travailler ensemble. Le résultat le plus visible et celui de l'an dernier, avec l'établissement de ce cadre formel pour une coopération avec l'industrie et avec les universités, qui nous permet de discuter beaucoup, très précisément et très en profondeur, avec un cadre qui nous impose bien sûr une confidentialité partagée, un traitement égal pour tous les membres de l'industrie, quels qu'ils soient. Sur cette base-là, l'industrie est prête à partager beaucoup avec nous, et nous pouvons aller plus loin que nous ne le ferions dans des simples discussions de prospectives.
Est-ce que le climat a changé avec la crise ? Est-ce que ça a touché ces industriels que vous rencontrez dans ce genre de conférences ? Est-ce que on sent l'impact de la crise dans ce genre de conférences ?
Je pense qu'on sent l'impact de la crise. Vous savez, en temps de crise, il y a deux réactions possibles. Soit on se referme sur soi, soit au contraire, on s'ouvre aux autres. Nous promotons la deuxième option. Et je crois que tout le monde ici, le nombre de personnes présentes, plus de 400 personnes aujourd'hui, ce qui est un record pour toutes ces conférences, le prouve. Chacun a besoin de partager, d'aller au-delà, au-devant des autres et de voir de quelle manière nous pouvons ensemble faire face à ces difficultés.
Savez-vous ce qu'est un mur végétal ? Oui, c'est cette fresque vivante que l'on trouve par exemple sur la façade du musée du Quai Branly à Paris. Inventeur de cette nouvelle technique de culture qui permet de végétaliser n'importe quelle surface verticale, le botaniste français et chercheur au CNRS Patrick Blanc a créé des murs végétaux dans le monde entier. Et ils rendent certes les villes plus belles et verdoyantes, mais dépolluent aussi l'air et sont un élément d'isolation phonique et thermique. Mardi, Patrick Blanc a présenté son concept à l'Institut français de Prague, dans le cadre des Journées internationales de l'architecture qui se tiennent jusqu'au 17 octobre dans la capitale tchèque. On l'écoute.
Alors le mur végétal est quelque chose en fait d'extrêmement simple. Hein. C'est un support comme une sorte de serpillière synthétique de 3 mm d'épaisseur qui est agrafé sur une planche en PVC de 1 cm d'épaisseur avec des tuyaux percés qui donnent de l'eau au sommet. Donc on est sur quelque chose, si vous voulez, structurellement d'extrêmement simple. Alors bien sûr, j'avais fait quand j'étais... Tout jeune adolescent, des choses beaucoup plus compliquées avec des fragments de noix de coco, des sphènes, de la tourbe, de la laine de roche, enfin quantité de supports que je pensais plus écologiques. Seulement ces supports plus écologiques, entre guillemets, ils se décomposent. Donc au fil du temps, après quelques mois ou au maximum 2 ou 3 ans, le substrat est décomposé, donc les plantes, bien sûr, ne peuvent plus pousser. Donc voilà pourquoi j'ai choisi d'utiliser une sorte de tissu, donc de serpillière, uniquement faite de vêtements synthétiques en polyamide, en polyester, qui sont donc des vieux vêtements recyclés. Donc d'un point de vue écologique, c'est correct, puisque c'est que des vieux vêtements recyclés, mais c'est en polyamide, c'est-à-dire un dérivé du pétrole. Donc pour recréer un milieu naturel, puisque les micro-organismes se développent dans ce feutre, aussi bien les bactéries que les champignons, etc., qui ont donc l'avantage de bloquer les grosses molécules toxiques, vous savez, les fameux composés organiques volatiles, hein, les COV, c'est-à-dire tous les aldéhydes, etc., donc qui sont des grosses molécules organiques, et en fait ce sont pas les plantes elles-mêmes qui dépolluent l'air, ce sont les micro-organismes vivant au contact des racines qui piègent ces grosses molécules et les fragmentent en petites molécules qui, elles, peuvent être absorbées par les racines des plantes. Donc grâce à ce feutre synthétique issu des produits du pétrole, comme il est stable à long terme, puisque le plus ancien feutre que j'ai, il date de 82, donc vous voyez, ça fait presque 30 ans, donc du fait qu'il est stable à long terme, les micro-organismes s'installent dedans et donc du coup peuvent dépolluer l'air. Donc vous voyez, on est sur des choses qui étaient difficiles à oser quand j'étais un jeune étudiant en écologie, c'est-à-dire de, au lieu d'utiliser des matériaux naturels biodégradables, j'ai choisi d'utiliser un matériau issu de tissus recyclés qui n'est pas biodégradable.
Donc vous avez travaillé sur ce projet depuis des années, puisque vous dites que vous étiez étudiant encore.
Oh oui, même avant, j'ai commencé justement avec les aquariums. Au début, c'était mon but, c'était pas de faire des murs végétaux, c'était de faire un filtre biologique. C'était justement pour extraire les excès de nitrate de mes aquariums. Quand j'avais 12 ans, j'avais lu dans une revue allemande que pour extraire le maximum de nitrate des aquariums, il fallait faire tremper des racines de philodendron dedans. Donc j'ai fait ça, et puis j'ai vu que le philodendron poussait très bien, donc j'ai mis je me suis intéressé progressivement de plus en plus à ces plantes qui poussaient au-dessus de l'aquarium et qui purifiaient l'eau. Donc voilà comment sont nés les murs végétaux. Et après, j'ai voulu faire sortir l'eau de l'aquarium avec une pompe, la faire couler sur les tiges des plantes. Il fallait bien que ces tiges soient fixées sur un support. Donc voilà comment j'ai commencé à agrafer sur des planches en plastique et puis chercher à mouiller autour des tiges pour que de nouvelles racines apparaissent. Donc, vous voyez, c'est comme ça au fil des ans. Ce que je peux dire simplement, c'est que dès 1978, donc ça fait quand même plus de 30 ans, j'avais eu un article d'une page entière sur moi dans VSD qui s'appelait « Les fougères poussent même au plafond ». Donc, et on montrait déjà mes premiers murs végétaux. Donc, ce que je sais vraiment de bien tangible, c'est qu'en 78, quand j'avais 25 ans, le mur végétal était à peu près fait tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est effectivement ancien maintenant.
Depuis, vous avez réalisé combien de murs végétaux à peu près ?
Dans le monde, à peu près, je suis autour de 250, 280, quelque chose comme ça. J'ai pas fait le compte exact, mais je sais que j'avais calculé il y a 2 ans, j'étais déjà près de 200 et j'ai eu beaucoup de choses depuis 2 ans. Donc, l'ordre de grandeur doit être à peu près ça.
Et vous collaborez avec des architectes, je suppose, ou comment ça se passe, le travail?
Évidemment, je collabore, j'ai eu la chance, en plus, de collaborer avec beaucoup de grands architectes, comme Jean Nouvel, en France, comme Herzog et Demeron, comme Sejima, là, qui vient d'avoir le prix Pritzker, cette année, comme reconnu la meilleure architecte cette année. J'ai un projet avec Franck Guéry aussi, ça s'est pas encore fait, mais avec César Pelli, j'ai fait aussi un travail à Madrid. Enfin, j'ai la chance de travailler avec beaucoup de grands architectes sur des projets vraiment intéressants, mais parfois j'ai fait aussi des toutes petites réalisations. Mon plus petit mur que j'ai fait, il était chez moi, là je l'ai plus, il faisait 12 cm de large sur 30 cm de haut, vous voyez, donc ça. Là en ce moment, à côté de ça, avec Jean Nouvel, je suis en train de travailler sur un projet à Sydney d'une tour de 200 mètres de hauteur. Donc vous voyez, on peut être de 30 cm de haut à 200 mètres, mais quelque part c'est toujours la même problématique. Bien sûr, à 200 mètres de haut, faut tenir compte du vent, des excès de soleil, et puis enfin surtout la force du vent, etc. Donc ça, c'est passionnant, puisque justement en fonction de là où je vais être amené à créer un mur végétal, les conditions sont différentes, donc c'est à chaque fois un nouveau projet.
C'était le botaniste Patrick Blanc, que vous aurez l'occasion d'entendre également dans nos prochaines émissions. La République tchèque ne participera pas aux demi-finales du championnat du monde de volley-ball. Malgré un excellent parcours au cours duquel ils ont battu plusieurs grandes nations, et notamment les États-Unis, champions olympiques en titre, les Tchèques n'iront pas plus loin que le troisième tour, successivement défaites par le Brésil 3-7-2 et l'Allemagne 0-3 lundi et mardi. L'équipe tchèque, dans laquelle figurent plusieurs joueurs évoluant dans le championnat de France, a perdu toute chance de rejoindre le dernier carré de la compétition. Guillaume Narguet.
Dans l'ombre de leurs compatriotes basketteuses finalistes dimanche de leur mondial organisé à domicile, les volleyeurs tchèques ont pourtant réalisé un parcours plus qu'honorable au championnat du monde en Italie. Après une défaite initiale de justesse 3-7-2 contre la France au premier tour, les Tchèques, dont pas moins de 5 des 12 joueurs sélectionnés défendaient la saison dernière les couleurs d'un club français, sont ensuite venus à bout 3-1, notamment de la Bulgarie, médaillée de bronze du précédent mondial, puis surtout au deuxième tour des champions olympiques américains sur le score étonnant de 3-7-0. Fort du scalp de ses deux adversaires de prestige, les Tchèques croyaient donc dur comme fer en leur chance avant d'affronter le Brésil, champion du monde en titre, et l'Allemagne, les deux adversaires figurant dans leur groupe du troisième tour. Et malgré les deux défaites, les Tchèques ne sont pas passés loin d'une nouvelle performance retentissante, en particulier contre le Brésil lundi, alors qu'ils menaient 2-7-1. Ils se sont finalement inclinés en 5-7, au grand regret de leur entraîneur Jan Svoboda.
Gagner aurait été sensationnel, mais l'équipe avait confiance en elle. Elle joue bien depuis le début du tournoi. Je peux même dire que nous avons mieux joué que les Brésiliens pendant les trois premiers sets. Mais le quatrième set, où les Brésiliens ont rapidement possédé 4 points d'avance, a constitué un petit tournant, car ils ont ensuite nettement gagné le tie-break. Je pense que nous avons aussi bien joué que lors des matchs précédents. Il faut simplement reconnaître que les Brésiliens ont su encore élever leur niveau de jeu quand il l'a fallu et qu'ils ont été un peu meilleurs que nous.
Après cette défaite, les Tchèques devaient absolument s'imposer contre l'Allemagne mardi s'ils voulaient conserver une chance de se qualifier, seul le premier de chacun des 4 groupes du troisième tour accédant aux demi-finales. Mais peut-être encore un peu touchés au moral, les Tchèques ont cette fois été nettement battus 3-7-0, moins de 18 heures après leur match de la veille. À l'issue de la partie, le coach Jan Svoboda n'a cependant pas cherché d'excuses.
Nous avons perdu tout simplement parce que les Allemands ont été meilleurs que nous. Je suis déçu parce que les garçons étaient vraiment très motivés, mais sans doute avaient-ils laissé trop de jus dans le match contre le Brésil, champion du monde. C'est la réalité du sport, on pensait qu'une médaille était possible, et nous allons finalement nous retrouver dans la poule pour les 9e et 12e places. C'est un peu dur, même si cela ne signifie en aucun cas que c'est un échec pour nous.
Ces deux dernières défaites ne doivent pas faire oublier que cela faisait bien longtemps que les Tchèques n'avaient plus obtenu de résultats aussi probants lors d'un championnat du monde. Il faut en effet remonter 20 ans en arrière pour trouver trace d'une 9e place de ce qui était encore la Tchécoslovaquie.
C'était Fais événements en République tchèque. Notre programme se poursuit avec le magazine historique. Deuxième partie aujourd'hui de notre entretien avec Daniel Vaněk, directeur de la société Forensic DNA Service. Selon lui, la génétique est devenue un apport indispensable pour les historiens. Une chose est sûre, les sous-sols du château de Prague, où ont lieu les recherches sur les ossements des Přemyslides, est une mine d'or pour les archéologues et les chercheurs. David Allon et son invité Daniel Vaněk vous ont dire en plus.
Chapitre de l'histoire.
Our struggle with the Europe in the European or work context. We are really lucky that we have.
Dans le contexte européen, nous devons nous estimer chanceux de disposer de tellement d'échantillons. Donc, si cette étude pouvait aboutir, nous pourrions montrer au reste du monde un bel exemple d'archéogénétique. Le projet ne porte pas seulement sur l'identification ADN. Ce que nous voulons, c'est que tous les os et crânes appartenant aux Přemyslides et retrouvés sous le château de Prague soient scannés en 3 dimensions et qu'ils soient consultables par le public. Ainsi, un étudiant de la Sorbonne, par exemple, pourrait télécharger les images et les comparer avec le squelette de Charlemagne, faire de mesures, etc. En bref, nous fournirions les informations majeures au reste du monde.
We will provide the data to the rest of the world in a...
Si dans 10 ans, quelqu'un demandait à rouvrir les tombes, nous pourrions répondre « Nous avons toutes les informations. Extrait ADN, scan tridimensionnel, description, mesure, donc aucun besoin de réveiller les morts. Les informations sont disponibles et c'est ça l'idée. »
La piste de l'origine germanique des Přemyslides est-elle viable ?
Répondre à cette question amènerait 100 autres questions sur la table. Dans l'histoire de la Bohème-Moravie, il y a de nombreuses interférences avec les Allemands, certaines bonnes, d'autres moins, et ce genre de recherche pourrait peut-être contribuer à clarifier certaines choses.
Can make the history clear. Ergolding, it's a place. Ergolding
est une localité en Allemagne proche de Regensburg, à proximité de la frontière avec la République tchèque. À la fin de l'an 2000, on y a trouvé un énorme site funéraire. Il y avait une tombe centrale avec 6 squelettes, dont 3 de la même famille. On y a trouvé de nombreux objets précieux, cloches en or, épées, etc. C'était le signe clair que ces gens appartenaient à ce qu'on appellerait aujourd'hui les VIP de l'époque. C'est pourquoi l'Institut archéologique de Bavière nous a commandé ces recherches. Nous avons découvert que 2 des squelettes appartenaient à 2 frères. Et fait troublant, ils se tenaient les mains. Notre grande surprise fut donc de constater une très grande similitude entre les chromosomes blancs de ces ducs de Ergolding et ceux de la famille Romanov, fondatrice de la dynastie russe. Désormais, on peut raisonnablement penser pouvoir connecter les Przemyslides avec les Ergolding ou un autre lignage germanique.
Maybe possibly connect Premislids to this lineage or to some other lineage.
Les plus vieilles mentions concernant les Przemyslides dans les sources occidentales remontent à 872 et concernent le prince Bojivoj, dont la capitale se situait à Levi Hradec, au nord de Prague. Avez-vous effectué des recherches sur ce site?
Vous savez, je ne suis qu'un scientifique généticien. Mon équipe et moi-même nous occupons exclusivement d'analyse de structures ADN, etc. Tout le reste repose sur les archéologues et les anthropologues qui me fournissent les échantillons à analyser. Je ne suis pas entraîné et formé à trouver des tombes.
Finding graves and everything, so really it is not easy.
Le travail de recherche génétique appliqué à l'histoire n'est vraiment pas chose facile. Dans le cas des Ergolding que j'ai évoqué tout à l'heure, il nous a fallu plus d'un an pour analyser les ADN de 6 squelettes. Le plus difficile réside dans le choix de la méthode. Nous devons constamment adapter le protocole. Ce qui fonctionne pour les Ergolding ne marchera pas pour les restes des Przemyslides au château de Prague ou pour des paysans moraves du Néolithique.
The Neolithic farmers from Morava.
D'après l'étude menée en 2007 par un cabinet de génétique, 50% des Tchèques seraient slaves, le reste étant partagé entre des éléments latins, juifs, celtes, etc. Que pensez-vous de ces résultats?
Yes, there's a prevalent group of
Il y a parmi les Tchèques un groupe prévalent de chromosomes blancs de type R1a spécifique aux slaves. Ceci dit, on retrouve ce chromosome parmi les Vikings, en Norvège, dans le nord de l'Angleterre et en Islande. Il faut donc étudier ces informations de manière vraiment scientifique et ne pas tirer de conclusions hâtives sans connaître le contexte. Non, il est tout à fait faux d'affirmer que 50% des Tchèques sont slaves. C'est plus complexe que cela. On peut dire que la majorité des Tchèques, disons 70% d'entre eux, appartiennent au groupe génétique R1a, un groupe que l'on retrouve surtout en Russie, en Ukraine, en Pologne, etc. Nous devons d'abord analyser des ossements de sites slaves du 6e ou 7e siècle et comparer avec les résultats avec la population actuelle. Là, on pourra tirer des conclusions, mais pas avant.
L'ADN est-elle un outil important pour l'historien du futur?
Les historiens travaillent avec des preuves plus faibles que les résultats des analyses ADN. Pour les périodes éloignées, dès les débuts du Moyen-Âge, on trouvera toujours 3 ou 4 experts qui ont des vues différentes. Les analyses ADN peuvent apporter, elles, des réponses claires.
Il n'en reste pas moins que la génétique ne peut substituer à tout le champ de la méthodologie historique. Elle en est un outil plus qu'utile pour les identifications, mais n'a pas de prise sur l'immatériel qui constitue justement la trame des nouveaux historiens. Histoire des mentalités, histoire des affects, etc. Autre limite symbolique, celle-ci, mise en avant par Daniel Vaniek, les ossements de saints qu'il est impossible d'analyser vu leur valeur morale.
Et c'est la fin du programme de Radio Prague en langue française. Merci de l'avoir suivi. Magdalena Hrozinkova au micro et Irena Viernochova à la réalisation. Je vous dis au revoir. Portez-vous bien. À demain.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0.30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.